Dieu. Je crois ce qu'elle dit que je suis. Je crois ce qu'elle dit que je peux faire. Quand j'ouvre la Bible, j'ouvre la bouche de Dieu. Et c'est Dieu qui me parle. Ce matin, je veux produire des exploits. Parce que je veux croire dans la parole. Je veux croire dans la parole. Qui n'est pas la sagesse des hommes, qui n'est pas l'intelligence des hommes, mais qui est la voix de Dieu, qui me parle. Ce matin, je m'élève avec la parole de Dieu, dans le but de produire des exploits, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons aller dans le livre de Néhémie. Et nous allons parler de Néhémie. Nous allons voir la vie de cet homme. Et nous allons voir un homme comme vous et moi. Mais qui a su porter et prendre un fardeau en voyant Israël, la porte de Jérusalem et Israël en mauvais état. Vous savez, écoutez-moi, les véritables enfants de Dieu, ce sont ceux qui constatent que les choses ne vont pas et qui vont invoquer leur Dieu pour demander à Dieu d'agir. Les chrétiens laxistes, et dans notre nation, il y a tellement de choses qui se passent. On a plusieurs personnes ont dit qu'ils ont entendu Dieu. Plusieurs ont entendu Dieu, mais ils ont détruit ce qui a été fait auparavant. Ce qui a été apporté par les apôtres avant nous, eux, ils l'ont détruit sur la base d'une nouvelle révélation. Et ce matin, je veux simplement parler de la Bible. Pas de ce que je pense ou ce que je crois moi-même. Je veux parler de la Bible. Je veux dire à quelqu'un, après que nous ayons lu ces quelques passages, et de voir comment un homme qui était un échanson, c'est-à-dire qui servait de l'eau à un roi, comment il se présentait devant son roi tous les jours, et le jour il s'est présenté avec la tristesse et le fardeau d'Israël, le roi l'a vu sous son visage. Alléluia. Souvent, les gens nous voient abattus parce que nous avons nos propres problèmes que parfois nous avons créés nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Souvent, j'ai constaté que beaucoup de personnes vivent des problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes. Parfois, les gens veulent être tellement spirituels, ils veulent être plus spirituels que Jésus lui-même. Et puis nous voyons toutes sortes de choses qui sortent en ce moment. Et j'ai compris que c'est dans les derniers temps que vont se manifester ces catégories d'esprit. Aujourd'hui, Dieu recherche des hommes humbles et qui vont dans la continuité de ce qu'il a créé. Nous ne pouvons pas, comment dirais-je, détruire ce qui a été fait avant sur la base d'une nouvelle révélation. La Bible doit être la parole qui confirme ce que nous disons et ce que nous faisons dans un siècle comme celui-là. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il est plus facile de divorcer parce qu'on a mis les passages de la parole de Dieu de côté. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Mais on dit non, c'est une autre époque. On le met de côté. Mais Dieu demandera compte le temps, quand le temps viendra. Lisons la parole de Dieu, Néhémie, chapitre 1er. Parole de Néhémie, fils de Akalia. Au mois de Kisle, la 20e année, j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent à Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Dis Amen. Dis encore Amen.
Amen.
Voilà Néhémie qui était échanson du roi. Il versait de l'eau simplement. Il pourvoyait à la boisson du roi. Toute boisson confondue, il pourvoyait aux besoins de la soif du roi et des gens du château. Mais voilà que Néhémie était un juif consacré. Un homme qui connaissait Dieu, parce que nous voyons dans ce que nous venons de lire qu'il s'adressait à Dieu et en sachant que Dieu était là, puisqu'il demandait pardon au Seigneur, il était conscient de qui était Dieu lui-même. Et il savait que Jérusalem avait une valeur pour le peuple d'Israël. Et cela n'était pas négligeable. Et depuis que la terre est terre, depuis que le soleil brille, Israël et Jérusalem ont toujours été liés. Alléluia. Et Israël a toujours été attaqué. Même aujourd'hui, nous voyons encore Israël attaqué pour des raisons parfois que nous ne comprenons pas trop. Et je ne veux pas entrer dans la partie politique des choses, mais simplement pour vous dire que sur la terre, Israël est une cible pour toutes les nations. Alléluia. Pour toutes les nations. Mais Dieu, ayant fait en sorte que de réunir Israël, a permis à Israël d'être, comment dirais-je, une autorité dans le monde et ce qu'on appelle dans le monde économique. Alléluia. Dans tout le monde économique, que vous alliez en Russie, aux États-Unis, la plus grande, l'une des plus fortes nations du monde, et les Israéliens, c'est-à-dire les Juifs, détiennent un grand pouvoir économique. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis par Dieu, mais jusqu'à maintenant, ils honorent Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. C'est pour ça que vous pouvez aller dans n'importe quel quartier et si le quartier est juif, vous allez reconnaître que c'est juif. Parce que dès le vendredi soir, vous allez voir qu'il n'y a plus de mouvement. Samedi matin, il n'y aura plus de mouvement parce que c'est le sabbat. Et même s'ils sont chefs d'entreprise et qu'ils gèrent des milliers et des milliers de dollars, ils vont se consacrer à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le jour qui est réservé à Dieu, ils le feront toujours, même s'ils sont multimillionnaires. Est-ce que quelqu'un me comprend?
C'est pour ça que Israël aura toujours un aspect vraiment très fort aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont compris le système du royaume. Tu honores Dieu et Dieu t'honore. Alléluia. Mais on ne peut pas négliger Dieu, négliger les choses de Dieu et penser que Dieu sera d'accord avec nous. Non. Non, 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 non. C'est pour ça que les chrétiens, c'est-à-dire ceux, les born again, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, doivent revenir aux Écritures et dans le fait d'honorer Dieu et d'honorer les choses de Dieu.
Amen.
Alléluia. Non, tu ne m'as pas compris. Parce que les chrétiens du 21e siècle, on leur a enseigné que seule la bénédiction de Dieu est importante. C'est pour ça que dès que quelqu'un a un travail aujourd'hui, Dieu pour lui n'est rien. Parce que son travail devient son pourvoyeur. Vous comprenez? Mais le juif a compris ça. Il gère des milliers de dollars, mais il donne toujours la gloire au Seigneur. Alléluia. Et plusieurs systèmes dans le monde, les musulmans prient 5 fois par jour. Daniel dans la Bible priait 3 fois par jour, je crois. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, combien de temps on prie? Combien de fois par jour? Est-ce que lorsque l'église est attaquée, est-ce que cela te fait mal ou pas? Aujourd'hui, les gens disent non, l'église est attaquée parce que l'église est charnelle. Mon ami, Jésus dit que lui, il aime l'église et qu'il revient pour son église. Et ça ne te fait rien lorsque des églises sont détruites, des pasteurs sont tombés, des hommes et des femmes de Dieu abandonnent le fait de servir Dieu. Et le public, sur les born again, applaudissent très fort pour dire, voilà, je savais qu'il allait tomber. Comment cet homme, Néhémie, lui, il a entendu la mauvaise nouvelle concernant Jérusalem, parce qu'il savait que Jérusalem, de Jérusalem, devait naître quelqu'un qui allait passer par là. Est-ce que quelqu'un me comprend? À l'époque de Néhémie, Jésus n'était pas encore là. Il était le premier-né de la création, mais il était dans le monde auprès du Père. Il était dans le sein du Père. Il n'était pas encore venu dans ce monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais voilà qu'on détruit les portes de Jérusalem. Et un homme se lève avec le cœur de Dieu. D'abord, il se repent devant Dieu. D'abord, il dit au Seigneur, mes pères et moi-même ont péché contre toi. Il parle, il ne regarde pas à lui-même. Aujourd'hui, nous avons tellement de personnes qui ne sont consacrées qu'à eux-mêmes. Ils ne voient qu'eux-mêmes. La seule personne qui existe, c'est eux. Ils ne pensent jamais aux autres. C'est pour ça qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est l'intercession. L'intercession, c'est prier pour les autres. La nation va mal, personne ne prie. L'économie va mal, personne ne prie. On dit Hollande, tu es ceci, tu es flambi, tu es ceci. Mais mon Dieu, la Bible dit ceci, écoutez-moi bien. Même si nous ne sommes pas d'accord avec lui, politiquement, mais de quel droit nous avons pour abaisser un homme qui essaie de changer une nation, qui essaie d'aider le pays. Même s'il n'y arrive pas, mais il se donne pour le faire. Mais tout le monde lui piétine. L'église qui aurait pu prier ne le fait pas. Vous savez, si vous voulez arriver dans un endroit où on critique beaucoup, allez dans les groupes des chrétiens et vous allez voir. C'est là où vous entendrez des gens qui vont dire, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord. Mais ils n'ont rien créé, mais ils ne sont pas d'accord. Ils n'ont rien créé, mais ils ne sont pas d'accord. Mais je peux vous dire une chose, vous avez pensé que Dieu laissera les choses comme cela, mais un temps viendra, je parle à l'église, je parle d'une manière très prophétique, Dieu demandera compte à tous ceux qui ont cassé les portes de Jérusalem. Jérusalem, dans la Bible, est le symbole de son église. Et je peux vous garantir, des hommes sont morts pour le fait de croire en Jésus. Des hommes sont morts pour avoir bâti des œuvres à travers le monde entier. C'est pour ça que le diable se lève dans tous les pays arabiques pour détruire les églises. Parce que l'église représente le retour du Seigneur. L'église représente le retour du Seigneur. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, l'Église est importante aux yeux du Seigneur, parce que Dieu le chérit dans son cœur. On aurait pu dire que les portes de Jérusalem n'étaient rien. Pourquoi aller rebâtir une muraille qui était faite de grosses pierres? Pourquoi aller rebâtir des portes qui étaient faites en bois? Pourquoi Néhémie abandonne ce qu'il fait pour aller rebâtir quelque chose qui est un symbole humain, un simple bâtiment? Parce que, écoutez, c'était prophétique. Jérusalem devait être là. Jérusalem devait voir passer l'agneau de Dieu. Et si les portes de Jérusalem étaient restées détruites, étaient devenues une ruine, que serait devenu notre Seigneur Jésus-Christ? Quel serait le symbole sur la terre? La Bible nous parle de Jérusalem, de Galilée, de toutes ces villes qui sont tellement importantes, mais qui représentent la nation choisie par Dieu lui-même. Tout est important dans la Bible. J'ai dit bien, tout est important. Nous avons besoin de retourner au Seigneur, d'avoir ses cœurs brisés. Ne pas permettre à nos bouches de dire n'importe quoi. Parce que, écoutez-moi bien, si nous ne faisons pas attention à ce que nos bouches disent, la Bible dit ceci, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui en sort. Alléluia. J'ai dit alléluia. Mais voilà Néhémie, il est au service du roi, il travaille pour un roi, mais son cœur est attristé parce que l'œuvre de Dieu est atteinte. Écoute-moi, ne te réjouis pas quand tu vois un de tes frères tomber. Ne te réjouis pas quand tu vois quelque chose qui ne fonctionne pas, ne te réjouis pas. Ne vous réjouissez pas quand vous voyez un mariage qui ne fonctionne pas, au lieu de dire « moi je le savais ». Non, prie tes genoux devant le Seigneur. Prie tes genoux et demande au Seigneur de faire en sorte que ce mariage fonctionne. Et ne te réjouis pas quand tu vois quelqu'un qui a l'ambition de bâtir une entreprise. Et puis quand il va le faire, l'entreprise ne fonctionne pas. Ne va pas dire « le Seigneur m'avait déjà montré ». Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont prophétiques, mais lorsque les choses sont passées déjà. Très peu de prophètes se mettent en avant pour déclarer les choses avant que les choses se fassent. Beaucoup de gens parlent après. Mais écoute, si tu parles après, tu n'es qu'un journaliste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a rien de spirituel dans ce que tu es en train de faire. Tu veux simplement impressionner les gens sur la base de ce que tu savais, mais que tu n'as jamais dit, mais que tu as attendu que la chose se produise pour pouvoir dire un mot. Tu n'es qu'un journaliste. Va aux Parisiens. Alléluia. L'homme spirituel qui se trouve dans la parole de Dieu déclare les choses avant. Écoutez-moi, Néhémie a déclaré les choses avant. Il voulait rebâtir les portes de Jérusalem. Il a voulu le faire avant. Il a invoqué Dieu. Et il a demandé à Dieu de le faire trouver grâce auprès du roi. Alléluia. Et quand la grâce de Dieu se soulève sur ta vie, quand Dieu répand sa grâce sur toi, les portes s'ouvrent. J'ai dit les portes s'ouvrent. J'ai dit les portes s'ouvrent. C'est pour ça que je suis là pour dire à quelqu'un, ne décide pas où tu seras planté. Laisse Dieu te planter là où lui l'a décidé. Parce que quand tu es planté par Dieu, tu portes tes fruits en ta saison. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit ne peut plus conduire les gens. Parce que chacun décide de lui-même. La Bible dit qu'il vous enseignera toutes choses. Mais il ne peut plus enseigner parce que chacun décide. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et c'est pour ça que là où Dieu ne t'a pas envoyé, la provision ne sera pas là-bas. Fais ce que tu veux, force-toi, aie des bonnes idées et tous les diplômes que tu veux. Là où Dieu ne t'a pas envoyé, rien ne fonctionnera. Tout fonctionnera là où il t'a envoyé. Et cela ne veut pas dire là où il t'a envoyé, il n'y aura pas de problème. Non, tu rencontreras des problèmes, mais tu les traverseras. Dis à ton voisin, tu le traverseras. Dis-lui, tu le traverseras. Alléluia. On va continuer de lire la parole de Dieu. On descend au chapitre 2 et on va revenir au chapitre 1er encore. Au mois de Nissan, c'est-à-dire l'entrée du printemps, dans le langage hébreu, c'est l'entrée du printemps. La 20e année du roi d'Artaxès, mot compliqué, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Vous voyez la discipline qu'avait Néhémie. Durant toutes ces années, il ne s'était jamais présenté devant le roi avec un visage abattu. Écoutez-moi, ne pensez pas que Néhémie n'avait pas de problème avant. Il avait des problèmes, mais lorsqu'il se présentait devant le roi, il venait toujours avec un visage ruisselant et il transmettait la joie. Et le seul jour où il ne s'est pas présenté avec le visage d'habitude, le roi le voit, a pu le voir. Écoutez ce que le roi lui dit. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Le roi croyait que Néhémie était un coureur de jupons. Il s'est encore trompé. Pénina avait pensé que Anne était une alcoolique parce qu'il avait vu que Anne était abattue. Il avait dit, mais passe-moi ton vin. Oh, mais ce n'était pas une histoire de vin. C'était une histoire de consécration. C'était une histoire où on va verser son cœur devant Dieu. Ce n'était pas une histoire où on vient faire du spectacle ou de la comédie. Non, c'était des hommes et des femmes tellement touchés alentour d'eux. Anne avait dit, Seigneur, Pénina a des enfants. Mais moi, je n'en ai pas. Mais je t'invoquerai jusqu'à ce que tu produises quelque chose pour moi. Et c'est référé à Dieu. Et ici, voilà, c'est Néhémie. Néhémie se présente parce que le fait que les portes de Jérusalem ont été détruites, Néhémie dit non. Je ne peux pas être dans la joie alors que les choses de Dieu sont détruites. Je ne peux pas être dans la joie pendant que les choses de Dieu sont abandonnées. C'est pour ça, mes chers amis, si l'état de la France ne te réveille pas le soir, si l'état de ton église ne te réveille pas le soir, afin que tu invoques Dieu, afin que tu puisses jeûner, crois-moi, tu es tellement passif que le diable viendra et continuera de faire. Dieu recherche un peuple dans lequel il pourra se confier. Dieu recherche un peuple qui pourra se mettre dans l'intercession et prier pour la nation jusqu'à ce qu'un changement vienne. Oh, la vie chrétienne light que nous avons, nous défendons des idées. Oh, la femme n'a pas le droit de prêcher. Il faut porter la foulard. Il faut pas mettre des boucles d'oreilles. Il faut pas mettre du mascara. Il faut pas s'habiller bien. Mais la femme ne doit pas mettre des talons. Les hommes, écoutez, je suis fatigué de ça. Jésus, quand il est venu, lui, il n'a jamais empêché aux femmes d'aller dire que la résurrection, qu'il était ressuscité. C'était prêcher la parole. Aujourd'hui, tellement d'alibi pour ne pas porter le fardeau. Tellement d'alibi. L'église de Dieu est en récession dans notre nation. Et puis, on est là, on défend des idées inutiles. Alors que le jeûne et la prière, c'est là où les cœurs se courbent devant le Seigneur. C'est là où on devient humble. C'est là où on dit, Seigneur, fais quelque chose pour cette nation, Seigneur. On tue des gens, on les congèle, on prend des enfants, on les viole à l'âge de 4 ans. Au lieu que nous puissions nous retrouver quelque part et dire, Seigneur, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. On dit non, plus il y a besoin d'aller à l'église, c'est pas important. Normal, c'est pas important. Mais simplement, Pour vous qui dites que c'est plus important, regardez l'état du pays. Regardez l'état du pays. L'église n'est plus importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne peux plus parler à ton enfant. Si tu le parles, il fait le 119. 119, on vient te chercher. Oui? Oui? Et oui? Regardez l'état du pays dans lequel on vit. L'économie du pays est par terre. Mais en combat, l'église n'est pas importante. Vous n'aimez pas ce que Dieu aime. Jésus dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est donné pour elle. Il revient pour son église. Mais on n'aime pas l'église. On n'aime pas l'église. Jésus lui-même à l'âge de 12 ans, va à la synagogue, est assis à la synagogue, est en train d'être enseigné, ou d'entendre les enseignements des rabbins. Mais toi et moi, dans nos siècles modernes, tu n'as pas besoin. Et puis aujourd'hui, on t'a envahi le halal. Eh oui, eh oui. Personne, 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 mes frères, ne se lève sur leurs genoux. Combien de personnes ici, vous êtes réveillés à 3 heures du matin? Combien d'entre vous, c'est en train de... Je ne parle pas d'être réveillé à 3 heures ou 2 heures du matin pour prier pour vos propres besoins, non. Pour prier pour les autres. Les autres, le fardeau des autres, le fardeau de quelqu'un que tu n'as pas vu, le fardeau de quelqu'un que tu vois qui est en difficulté, le fardeau de quelqu'un qui n'a pas de travail, le fardeau de quelqu'un qui n'a pas les moyens, le fardeau de quelqu'un. Il est où ce temps où on passait du temps dans la présence de Dieu et qu'on pouvait pleurer dans sa présence? Il est où ce temps, mes frères? Nous avons toutes sortes de modernisations. Nous avons Facebook, Internet et toutes ces choses. Mais nous sommes de plus en plus seuls. Nous sommes de plus en plus seuls. Les gens ne sortent plus, ne rendent plus visite à quelqu'un. Parce que nous avons mis ça sur la base du spiritualisme. Seigneur, je me souviens quand je me suis donné au Seigneur. Et que j'allais à l'église. J'étais tellement heureux d'arriver le samedi après-midi à l'église qui se trouvait dans un hôtel. L'atmosphère était différente. Les gens étaient différents. Les gens étaient souriants. Leur visage ruisselait. Et sur leurs lèvres, il y avait que le nom du Seigneur. Ils parlaient que de Jésus, pas de leur système, pas de ce qu'ils croyaient. Non, mais de Jésus-Christ. Ils sentaient Yeshua Zaliawa. Mais mon Dieu, c'était formidable. La présence de Dieu impactait l'endroit. Et nous étions tellement heureux. Et aujourd'hui, les choses ont changé. On s'en moque des pasteurs. On les appelle des voleurs, des menteurs. On les traite de tous les noms. Et moi, j'ai dit, peut-être que je vais enlever Éphésiens 4.12. Éphésiens 4.12 parle des cinq ministères. Alors peut-être qu'il faut l'enlever. C'est qu'il faut arracher cette page et laisser chacun faire ce qu'il veut. Jésus a dit ceci. Je reviens chercher mon armée. Mais est-ce qu'une armée peut avancer en n'étant pas dans l'ordre? Est-ce qu'une armée peut avancer en n'ayant pas une hiérarchie? Est-ce qu'il suffit de donner à chacun une kalachnikov et lui dire va à la guerre? Aujourd'hui, vous direz que c'est insensé. Mais pourquoi dans le monde spirituel, dans le monde chrétien? Il faut que chacun fasse ce qu'il veut. Alléluia. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut qu'être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Quand le roi lui a dit, au verset chapitre 2, verset 2,
Quand le roi lui a dit, c'est peut-être un chagrin de cœur, il fut saisi d'une grande crainte. Je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Moi, ce que j'aime avec Néhémie, c'est surtout là, l'humilité que cet homme a. Il respecte le roi devant lui. Il est en train de parler au roi, mais il le parle avec respect. Il a le fardeau pour Israël, mais par contre, il est devant un roi, mais il ne dépasse pas les limites. Il traite le roi comme un roi. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Amen. Est-ce que toi et moi, nous pouvons parler comme ça à nos chefs, à nos pasteurs, à nos serviteurs, à des gens qui ont une autorité, est-ce que nous pouvons leur parler comme ça? Et si ton serviteur lui est agréable, est-ce qu'un pasteur quelque part, parce que la plupart d'entre vous n'êtes pas nés de nouveau ici, mais est-ce qu'on peut appeler un pasteur qui parlera de cette façon de toi? Des traces que tu as laissées. Où as-tu été combattre avec la révélation et tes rêves? Ou avec ce que tu as compris de la parole? Est-ce que quelqu'un peut parler de toi ainsi? Voilà que Néhémie est devant le roi avec plein de respect. Mais avant d'aller devant le roi, il avait déjà passé un temps dans la prière et dans l'intercession. Il avait déjà invoqué Dieu et voilà qu'il va devant le roi et qu'il demande au roi, « Roi, est-ce que tu peux me laisser aller ?» Mais il dit au roi pourquoi il s'en va. Il dit ceci, « Vers la ville de sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Et rappelez-vous, il ne servait que dans la maison du roi. Comment Néhémie aurait pu aller rebâtir des murailles? Avec quoi? Avec quoi? Il quitte la maison du roi par la foi. Avec le seul but, le seul rêve, celle de rebâtir les murailles de Jérusalem. Alléluia. Il ne s'est pas posé la question, comment il va faire pour avoir le bois? Comment il va faire pour avoir les pierres? Mais la seule façon, comme il avait le désir de rebâtir l'œuvre de Dieu, eh bien Dieu surnaturellement a apporté tout ce qu'il fallait pour que Jérusalem soit rebâtie. Alléluia. À chaque fois qu'un homme a le désir de bâtir des choses pour Dieu, à chaque fois qu'un homme est suscité à une époque ou à un temps pour faire quelque chose, Dieu sera avec lui. J'ai dit Dieu sera avec lui. L'enfer savait que Moïse allait être quelqu'un. À l'époque, lorsque Moïse est né, un décret de loi est sorti de tuer tous les enfants mâles. Parce que, écoutez-moi bien, l'enfer réfléchit. Comment empêcher que le christianisme se développe en force? Détruit l'église. On voit chacun chez eux. Et ils n'auront plus de pouvoir. Mais si l'église est là, si l'église a le véritable visage de Jésus, les choses seront différentes. Mais voilà, tue Moïse, mais la mère de Moïse, avec la sagesse de Dieu, a dit, mon fils ne peut pas mourir, il est trop beau. Et elle a fabriqué, la Bible ne nous parle pas du père, la Bible dit que c'est la mère qui a bâti un panier d'oseille et puis qui a mis Moïse dedans. Et par la foi, parce que le père, bien souvent quand les choses sont difficiles, on ne voit pas les hommes. On ne les voit pas. Au pied de la croix, il y avait les femmes. Mais voilà que la mère de Moïse, on ne nous parle pas de son père. Où était le père? Non, il y a un décret de mort, tu n'es pas dans ta famille, tu as un problème. Il y a des problèmes dans ta propre maison, tu n'es pas là.
c'est que tu as un problème, mon cher. Amen. Tu as un problème. Mais voilà que Moïse, la mère de Moïse, elle dit, mon fils ne mourra pas. Elle va, elle bâtit un panier. Elle saisit des branches, elle bâtit un panier. Et elle lâche le fils sous le fleuve, à un endroit bien précis. Et elle s'est dit, là, par la foi, mon fils va être récupéré. Alléluia. Écoutez-moi, je vais vous dire pourquoi c'est par la foi qu'elle l'a fait. Parce que Moïse aurait pu être endormi et que le panier dépasse la propriété de la fille de Pharaon et puis passe. Mais ce n'est pas ainsi. La Bible dit qu'elle a entendu le pleur des bébés. Alors il fallait avoir la foi de libérer ton enfant qui ne soit pas en sommeil. Et puis voilà que Moïse, sur son petit bateau qui a été créé par sa mère, bâti de la main d'une femme, il passa et puis il pleura. Et les servantes ont entendu la voix de l'enfant. Oh, elle a dit, amenez-les-moi. Et puis elle a vu, elle a trouvé l'enfant super beau. Elle a dit, trouvez-moi quelqu'un. Et quelqu'un a dit, nous avons quelqu'un. Et c'était la mère à Moïse. Et la mère à Moïse a nourri Moïse dans la propre maison de Pharaon. Mon Dieu. La foi fonctionne. La foi qui est déterminée change les cours de vie. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tout ce que tu feras par la foi pour faire en sorte que Dieu soit honoré, Dieu sera présent. Alléluia. J'ai dit Dieu sera présent. Néhémie. Oh. Nous ne voyons pas qu'il demande au roi, « Roi, donne-moi du bois, donne-moi des clous, donne-moi des pierres. » Non. Il dit, « Envoie-moi à Juda, là où se trouve le sépulcre de mes pères, afin que je le rebâtisse. » Alléluia. J'ai dit, « Alléluia. » J'ai dit, « Alléluia. » Lorsque tu as le cœur de Dieu et que les choses de Dieu sont détruites, tu n'as qu'un seul désir. Celle que les choses de Dieu revivent. Revivent. Les Smith Wigglesworth avaient la passion de Jésus. Ils faisaient des kilomètres à cheval. Le John Knox. Des hommes qui ont travaillé pour le royaume de Dieu avec leur vie. Aujourd'hui, qui c'est qui veut donner sa vie? Hier, un pasteur m'a appelé, il m'a dit, mais toi, pasteur Pierre, il faut que tu fasses attention. J'ai dit, faire attention de quoi? Il m'a dit, il faut que tu fasses attention. On ne va pas t'aimer, on va détruire ta vie. Mais je leur ai dit, mais on ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Parce que, écoutez-moi bien, ma vie, je l'ai donnée au Seigneur. Je ne peux plus la récupérer. Et si un jour je dois partir à cause de l'évangile, ne pleurez pas pour moi. Laissez-moi aller. Parce que faire le travail du Seigneur peut te coûter ta vie. Alléluia. Oui. Plusieurs d'entre vous, vous avez cru que je suis venu ici pour faire des spectacles. Ce n'est pas un spectacle. Il faut rebâtir les portes de la France. Il faut faire en sorte que des intercesseurs se lèvent pour cette nation. Il faut faire en sorte que la méchanceté quitte cette nation. Écoutez, aujourd'hui, tu peux détruire quelqu'un et dire que c'est spirituel. Je vous dis, vous pouvez même tuer quelqu'un, dire que c'est spirituel aujourd'hui. Souvent, je dis aux gens, mais dans toute mauvaise action, pose-toi la question, qu'aurait fait Jésus à ta place? Qu'aurait-il fait? C'est ça la grande question, mon ami. Qu'est-ce que Jésus aurait pu faire à ta place? Je vois des chrétiens remplis de colère. Et qui dit, ah, moi je ne suis pas d'accord. Oui, Jésus aurait fait ça. Personne ne l'aurait suivi. Jésus était ferme. Quand il parlait, il disait, arrière de moi, Satan. Il savait ce qu'il faisait. À ton travail, qu'aurait fait Jésus à ta place? Quand tu arrives en retard à l'église, Jésus aurait été à ta place, serait-il? Aurait-il fait pareil? Parler de ton voisin, Jésus à ta place, qu'aurait-il fait? Qu'aurait-il fait? Depuis ce matin, je me suis réveillé. Comme le dimanche matin, je me réveille très tôt. Et je me suis réveillé avec une tristesse au fond du cœur. Celle de voir l'état du corps de Christ. Je pleurais. Je me dis, Seigneur, est-ce que je suis le seul à comprendre, ou parmi les seuls à comprendre, que l'Église a besoin de se réveiller? Je dis, Seigneur, pour mener des actions, pour faire en sorte que la France, le pays, un beau pays comme celui-là, ait un autre visage, il va nous falloir une unité pas possible. Et Seigneur, comment on arrive aujourd'hui à réunir un lion, un lapin, un lièvre dans une même cage sans que l'un ne mange l'autre? Mais c'est beaucoup plus difficile de réunir deux chrétiens dans une même maison. J'ai vu même un chat monter sur le dos d'un dauphin. J'ai vu même une espèce de doigt prendre à manger et donner à des poissons. Mais mettez deux chrétiens, deux semaines, l'un à côté de l'autre, c'est la guerre. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Dites-moi, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Où avons-nous mis l'Évangile? Où avons-nous mis l'Évangile? Où l'avons-nous mis? Où avons-nous mis Jésus? Est-ce que vous pouvez fermer les yeux? Juste fermer les yeux. Je voudrais que chacun rentre en soi-même. Vous et moi, nous voyons l'état du corps de Christ. Les églises grandissent par des gens qui détruisent une église quelque part et qui vont dans une autre. Alors que dans l'acte des apôtres, il est dit que le Saint-Esprit rajoutait. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut rajouter là-haut? Là où il y a les blessures, là où il y a les gens durs. Maintenant, nous sommes là devant sa face. Vous n'êtes pas devant la face du pasteur Pierre-Yves, parce que je n'ai pas le pouvoir de vous sauver, ni le pouvoir de vous changer. Je n'ai pas ce pouvoir. Mais maintenant, si tu es dur au fond de toi, maintenant tu es face au Seigneur, tu peux lui dire que tu es devenu dur, ou tu es de ceux qui n'écoutent plus rien. Tu fais qu'à ta tête. Tu es peut-être mère de famille. Et ton mari et toi-même, vous, plus rien ne fonctionne parce qu'un d'entre vous est devenu dur. Mais je te pose la question, si Jésus était à ta place, quelle serait son attitude? Lui qui a pardonné, celui qui a coupé l'oreille d'un sacrificateur. Lui qui a pardonné ceux qui ont craché sur lui. Lui qui a pardonné ceux qui l'ont crucifié, il les a pardonnés. Mais nous aujourd'hui, quel genre de pardon utilisons-nous? Nous sommes entre nous, mes frères. Nous sommes entre nous, mes sœurs. L'heure est tellement grave. Voilà, ce matin, nous avons le cœur devant le Seigneur. Nous avons vu que Néhémie, lui, avait le souci de rebâtir les portes de Jérusalem. Mais ce matin, quel est ton souci?
Qu'est-ce que tu peux rebâtir? Est-ce que le piano peut s'y mettre, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux rebâtir? Il y a des relations qui ont été brisées par des petites choses. Est-ce que cela peut être rebâti? Il y a des parents qui ne parlent plus à leur enfant. Est-ce que cela peut être rebâti? Est-ce que cela peut être rebâti? Il y a des membres de famille, tu t'es fâché avec eux juste parce que parfois ils ont garé leur véhicule juste devant le bateau de ta maison. Tu t'es fâché avec eux. Ou même des voisins. Tu t'es mis en colère pour cela. Alors, Jésus à ta place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Nous sommes là tous ensemble. L'Église de Dieu est détruite en France. Mais est-ce que quelqu'un a eu le souci que les églises du Seigneur soient rebâties? Soient rebâties. Que le Stade de France soit rempli de chrétiens un jour. Que Bercy soit rempli de chrétiens un jour. Que les stations de télévision viennent nous voir à manger un barbecue ensemble, danser sous des chansons chrétiennes. Est-ce qu'un jour nous le verrons dans notre nation? Voilà le moment. C'est vraiment le moment. Et le message, je l'intitule « Quand j'avais décidé de rebâtir ce qui avait été détruit. » Quand j'ai décidé de rebâtir ce qui avait été détruit. Ce matin, tu es là. Toi seul as le pouvoir de rebâtir. Toi seul as le pouvoir de remettre les choses à leur place. Toi, tu les ramènes à leur place et Dieu les soude. Oh. Peut-être que tu es là, jeune garçon, et que tu as pris l'habitude de lever la voix sur maman. Tu as aussi pris l'habitude de lever la voix sur papa. Alors tu as le choix maintenant de ne plus le faire. De ne plus le faire.